Soyez les bienvenus depuis que vous avez été accueillis par Eric dans cette salle qui est un lieu de rassemblement tous les dimanches où nous venons pour dire notre reconnaissance à Dieu. Les semaines sont ce qu'elles sont. Il y en a sans, il y en a avec. Mais nous voulons dire merci à Dieu parce que le fait que nous soyons là, c'est qu'il nous a donné un peu de santé pour que nous puissions nous déplacer et c'est déjà l'effet de sa grâce. Et on veut le remercier pour cela. Dimanche de Pâques, dimanche de chocolat, non? Dimanche de lapin au chocolat, dimanche de quoi encore? De gigot, d'agneau, de la chasse aux œufs. Il y a tout un faisceau d'événements qui ont été construits autour de la Pâque. Et souvent, ce faisceau d'événements et ce faisceau de réalité peuvent nous faire perdre la réalité de cette fête. C'est bel et bien une fête chrétienne. Même si, je dois être sage en disant ça, même si bientôt, dans notre belle civilisation, les choses qui semblent être des choses chrétiennes vont se perdre. Et nous voyons beaucoup de lois qui vont dans ce sens-là. On a tout un patrimoine, merci Eric, qui dit ce que nous sommes. Et beaucoup de textes ont été lus ce matin, et c'est normal puisque ce sont des textes qui sont liés à la Pâque. Et c'est dans les évangiles, évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Jean. Ce sont ces livres bibliques qui commencent le Nouveau Testament et qui nous parlent justement de cet événement lié à la vie de Jésus-Christ, celui qui s'est présenté comme fils de Dieu, sauveur du monde, agneau, pascal, qui nous raconte ces récits. Nous avons tout au long de cette semaine, nous aussi en tant que chrétiens, vécu depuis lundi, mardi, mercredi, étape par étape, la relecture de ces textes pour nous plonger dans cette semaine de passion. On appelle la passion du Christ parce que c'est cette semaine où dans sa dernière marche pour le salut de l'humanité, il a vécu des choses franchement douloureuses, souffrance, abandon, trahison, violence sur lui, accusation à tort, faux procès et puis crucifixion. Et tout cela, il a fait par amour. Et souvent, c'est difficile de dire qu'il a fait par amour. On voit que dans la séquence que Dieu instaure dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est un fait vrai, c'est un fait historique, il est daté. Après, on peut discuter de sa portée ou pas, mais Jésus-Christ a bel et bien existé. C'était un homme qui vivait dans cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui Israël ou Palestine. Il a bel et bien eu une vie terrestre, humaine, il y a 2000 et quelques années. Il a bel et bien été accusé de blasphème, parce que selon ses accusateurs, il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. Et dans une religion où Dieu est l'immanent, Dieu est le tout-puissant, Dieu est là, et cet être qu'on ne peut pas définir, qu'un homme se fasse appeler fils de Dieu, c'est un blasphème. Savez que dans la religion de l'Ancien Testament, à cause de cette grandeur de Dieu, on ne disait pas le nom personnel de Dieu, parce que Dieu était trop grand pour que son nom puisse retentir dans ma bouche de pécheur. Et notamment le tétragramme, ce qui a donné Yahweh ou ce qui a donné Jéhovah, en fait, ce n'est pas le nom de Dieu. On dit que cette religion a mis ce tétragramme justement pour ne pas oser prononcer le nom particulier de Dieu, car il est trop saint. Et c'est ce Dieu trop saint qui, lors de la visitation que nous avons aussi célébrée à Noël, est apparu à Marie, cette jeune femme vivant dans cette partie du monde, avec cet ange que la Bible a nommé l'ange Gabriel, qui lui a annoncé que quelque chose d'exceptionnel allait se passer dans sa vie. Sans qu'elle ne connaisse un homme, elle serait enceinte, et l'enfant qui naîtrait de son sein, par cette opération spectaculaire du Saint-Esprit, vous savez, c'est une expression française qui veut dire aujourd'hui, depuis cette époque, quand on ne connaît pas le départ de quelque chose, quand on ne sait pas l'origine d'un événement, on dit « Ah, c'est une action du Saint-Esprit ». Pour dire, On ne sait pas d'où c'est venu. C'est venu spontanément. Et ça vient de cette histoire de Marie qui a été visitée par l'Esprit de Dieu et qui a mis au monde Jésus. On a le Magnificat. Le Magnificat, c'est quand Élisabeth, sa sœur, la reçoit chez elle. Elle lui dit, tu es une bienheureuse, car le Très-Haut t'a visité parmi toutes les jeunes filles de notre génération. Tu as été celle qui a été choisie. Et Marie, lors de la visitation avec l'ange Gabriel, elle dira, mais je n'ai aucun mérite. Qui suis-je pour que ça tombe sur moi? Et justement, elle n'avait pas de mérite. Elle était une jeune femme ordinaire. Et c'est là toute la merveille de ce que Dieu fait. Dieu, il se plaît à agir avec des gens ordinaires. Et quand nous lisons tout le récit biblique, tous les personnages bibliques sont de toutes les catégories sociales, de toutes les catégories humaines diverses et variées. Et c'est incroyable de voir cela. Alors, la résurrection de Jésus que nous célébrons ce dimanche matin a été opérée dans ce qu'on appelait la tradition judaïque, la tradition de l'Ancien Testament, le jour du sabbat juif, après la Pâque. Et pourquoi Dieu fait ça? En fait, Dieu fait ça pour accomplit toutes les prophéties qui ont été annoncées avant la venue de Jésus. Vous savez, prophétie, parfois, c'est un grand mot dans notre civilisation, parce que nous sommes des êtres rationnels, et que même si nous planifions dans 2, 3, 30 ans, on trouve que c'est fou que quelqu'un puisse dire, je prophétise que dans 10 ans, il y aura quelque chose. Alors que nous faisons tout ça. Que nos gouvernements planifient des décades, des 20 années plus tard, 30 années plus tard, on a déjà le plan pour 2039. Est-ce une prophétie? J'en sais rien. Mais c'est une planification. Si les humains sont capables de planifier, pourquoi enlevons-nous à celui qui est le créateur de l'humanité cette capacité à dire les choses à venir? Il nous a donné cette intelligence qui nous permet de nous projeter. On vient de lui. Donc c'est lui qui se projette par essence. Et donc il fait ressusciter le Christ ce jour précis pour dire que tout ce qui était contenu dans l'Ancien Testament vient de s'accomplir par le Christ. Et que désormais, tout l'Ancien Testament ne peut pas se lire sans le Christ, puisqu'il est l'accomplissement de tout ce qui a été dit depuis Genèse jusqu'à ce que Christ rentre dans le monde. Et c'est significativement pour cela que justement, au début de son ministère terrestre. Quand nous lisons les évangiles au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, et c'est lui qui le dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, lui donner son vrai sens. Et c'est ce sens-là qui est marqué par la Pâque, qui est un événement fort dans ce curseur du plan de Dieu pour l'humanité. Nous avons lu ce texte jeudi dernier, mercredi aussi. C'est un texte spécial. Il me semble que je veux le relire avant que nous pensions et que nous réfléchissions ensemble ce matin très brièvement sur la Pâque et cette résurrection du Seigneur. Il faut qu'on sache pourquoi c'est aussi important qu'il y ait cet événement-là. Alors l'évangile de Matthieu que vous avez là affiché à partir du verset 26 dit, et ça c'est pendant le procès de Jésus justement devant Ponce Pilate. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Vous savez, c'est un procès où Pilate, ce gouverneur, est embêté parce qu'il sait que ce Jésus qu'on lui a présenté est quand même innocent et que tous les faits qu'on lui marque là, c'est des faits plutôt religieux, mais ça ne relève pas du droit commun. Il n'y a pas de faute pénale, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de crime. Et il est bien embêté. Et à plusieurs reprises dans cet évangile, on voit que Ponce Pilate cherche à dire « Attention quand même, vous êtes en train de me dire de condamner un innocent. » Il n'est pas entendu, parce qu'il y a, une conspiration contre Jésus sur ce moment-là. Et il fait quelque chose de régulier, parce qu'à cette époque de l'histoire, vous savez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce présidentielle. Donc, cette autorité politique et militaire a le privilège, le pouvoir de libérer un prisonnier de droit, même criminel, ce jour-là. Et il dit, tiens, ça tombe bien parce qu'il y a un prisonnier notoire, un bandit notoire qui est connu de tout le monde, qui s'appelle Barabbas, et que certainement, si je mets dans la balance un aussi grand criminel que toute la population connaît, et que je mets ce Jésus qui, franchement, n'a rien d'un criminel, ils vont quand même dire, libère Jésus. Libère Jésus. Donc il dit, entre Barabbas et Jésus, que qui voulez-vous que je vous libère? Et toute la foule dit, Barabbas. Vous savez, souvent vous posez une question, vous avez l'impression que vous n'avez pas entendu la bonne réponse. Donc il repose la question à nouveau, et le peuple tout entier dit, Barabbas. Et comme c'est une coutume et que c'est une loi, il est obligé de libérer Barabbas. Et c'est comme ça que notre texte commence. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Il lui posait sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, il plaçait un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant, sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui. Prenant le roseau, il le frappait à la tête. Quand il eut fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 32. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un homme Simon, originaire de Cyrène. Il lui fit porter la croix de Jésus. Ils arrivaient à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le crâne. Là, ils donnaient à boire Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partageaient ses vêtements en les tirant au sort. Puis, ils s'assirent pour monter la garde. C'est une scène d'humiliation que 3 jours plus tôt, Jésus a vécue. C'est le miroir de notre péché, en fait. On voit un homme qui n'a fait que du bien pendant toute sa vie, et tout le monde le sait, dans cette partie du monde. Et même quand il rentre à Jérusalem, ceux qui ne connaissent pas demandent qui il est. On dit c'est le prophète qui vient de Galilée. Quelqu'un qui n'a fait que du bien aux gens, guérissant les malades, donnant à manger à ceux qui avaient faim. Et pourtant, il va être arrêté, un procès à charge. Et puis, il va vivre toute cette horreur. Jésus a vécu, on l'a dépouillé. Mettre quelqu'un comme ça à nu en public, c'est sa dignité qui est touchée. On l'a revêtu de dérision. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. On s'est moqué de sa royauté, soi-disant roi. On lui a craché au visage, frappé sur la tête. Ça, c'est du mépris. Est-ce que ces soldats romains savaient qui ils avaient en face de lui? Certainement pas. Peut-être que oui. Mais avec du recul, nous le savons, parce que le texte biblique nous en parle et parce qu'en amont, les 12 savent qui il est. Ils l'ont vu, ils ont marché avec lui. Les gens qui étaient en Galilée, dans toutes ces villes et tous ces villages, savaient qui il était. Ils ont vu ses œuvres. Et il a même dit, qui me convaincra de péché? Qui peut me convaincre que j'ai fait une fois dans ma vie, ici, mal à quelqu'un? Et personne ne pouvait le dire, puisque tout le monde disait, mais il fait que le bien, ce gars. C'est incroyable. C'est le créateur de l'univers qui était là, dépouillé, humilié. Vous savez, c'est comme un puissant qui accepte que ceux qui n'ont pas de puissance le traînent dans la boue. Il s'est laissé faire pourtant. Il s'est laissé faire. La violence des hommes reflète la violence du péché. Vous savez, le péché, ça paraît comme un mot religieux, mais ce n'est pas un mot religieux. Le péché, c'est le mal. Si vous voulez une définition très simple du péché, dites le mal. Bon, on est un peu embêté parce que le mal, c'est un mot à girouette variable, en fonction de là où on est. Mais la Bible est une constance. Ce que la Bible appelle mal, elle continuera de l'appeler mal. Ce que la Bible appelle bien, elle continuera de l'appeler bien. Le mépris des soldats reflète le rejet de Dieu par l'humanité. Notre humanité a rejeté Dieu. C'est peu de le dire. Je ne vous apprends pas. Je ne vous apprends rien. Ce n'est pas un scoop. Les intellectuels de notre époque, pas de notre époque, mais de ceux des siècles des Lumières, ont osé dire Dieu est mort. Dieu est mort. Parce que désormais, c'était le règne du rationalisme. La religion, c'est l'opium du peuple. Ce que nous ne comprenons pas dans notre intelligence, nous ne pouvons pas l'accepter comme vérité. Et on a tué Dieu. Malheureusement pour eux, ils sont déjà morts et Dieu continue de vivre. Comme quoi, Dieu se défend tout seul des fois. Bien-aimés, le péché déforme le cœur humain au point de mépriser ce qui est saint. C'est ça qui se joue là. C'est ça qui s'est joué et c'est ça que nous rappelons toutes les semaines pascales. C'est l'horreur du péché. Le mal qui défigure l'humanité, qui fait que nous sommes toujours en train d'être les uns contre les autres, malheureusement. De faire du mal même à ceux qu'on aime, des fois, souvent, trop souvent. Parce que ce mal, il est inscrit malheureusement en nous, depuis la chute d'Adam et Ève. Et le projet de Dieu, c'est justement de faire en sorte que ce mal ne soit plus un maître sur nos vies, mais de nous libérer de l'emprise de ce maître. C'est ça le projet de Dieu. Et c'est ce que manifeste la croix de Jésus et ce que nous sommes en train de vivre ce dimanche matin. Est-ce qu'on peut prendre à la légère le mal? Non. Ça a coûté la vie de Jésus. Les évangiles nous disent qu'il n'a pas dit un mot parce que il a accepté ce sacrifice pour justement permettre à l'être humain de se dégager de l'emprise du mal. C'est pour ça qu'il a accepté. Mais notre culture, que dit notre culture? Notre culture nous dit le péché. C'est une notion dépassée, ça. C'est pour les hommes des cavernes, franchement. Ce qui compte, c'est ta liberté, finalement. Tu es libre de faire ce que tu veux. Ce qui te rend heureux. Tant que tu ne fais de mal à personne. Et puis finalement, ce mal, ce péché, il est justifié. Certaines sont inscrites dans nos lois. Ça veut dire c'est normal. D'autres sont dans la conscience populaire. On a toujours fait comme ça. C'est normalisé. C'est devenu tellement banal que tout le monde fait ça. Pardon de le dire, mais tout le monde fait la guerre, tout le monde. Les plus forts, pour les motifs que seuls savent, de justice ou d'injustice, font la guerre. C'est devenu banal de faire la guerre. Dans certains pays, violenter des femmes, tuer des enfants, c'est devenu banal. On ne compte pas le nombre de femmes qui tombent sur le coup de violents, le nombre d'enfants qui tombent sur le coup des balles, on ne les compte plus. Et ça n'émoie plus personne. C'est devenu banal. C'est normal. Il y a toujours une bonne raison pour faire ça. On relativise tout. Ah, tu penses comme ça, c'est ton problème. Moi, je ne pense pas comme ça. On parle de, c'est mon choix, ce sont mes valeurs, c'est ma liberté, c'est ma vérité. On dit que nous sommes dans le postmodernisme, et le postmodernisme, c'est que il n'y a pas une vérité unique, toutes les vérités se valent. Pourvu que tu ne fasses pas du mal à l'autre. Mais la croix, elle nous raconte une autre histoire. Ce n'est pas ça qu'elle nous dit. La croix, elle nous raconte une autre histoire. Cette autre histoire, c'est l'histoire du fait que le péché est grave. Que ce mal-là, il est grave. Il ne peut pas être banalisé, ce n'est pas possible. La croix nous dit qu'il y a des conséquences. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu, Jésus, a donné sa vie. Sinon, Dieu aurait simplement fermé les yeux. Hein. Il aurait dit, débrouillez-vous tous seuls, faites vos vies. Mais le mal fait non seulement le mal à celui qui fait le mal, mais fait le mal aussi au prochain. Et Dieu, il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous regarder, nous détruire ou nous auto-détruire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On voit bien que des fois, c'est des faits divers, mais ce n'est plus des faits divers, tellement les statistiques sont effarantes. On dit qu'il y a un féminicide, je ne sais pas la fréquence, mais la fréquence fait peur. Dans les meilleurs des scénarios, ça veut dire chaque jour, il y a quelqu'un qui tue une femme qu'il avait aimée la veille au soir. C'est fou quand même. Aimer quelqu'un et être capable de la tuer par la suite. Et nous avons été défrayés par la chronique de ce monsieur qui aurait tué son ex-femme, sa femme avec. Wow. Mes amis, le péché est grave. Ce n'est pas un jeu, le péché. Dieu le sait si bien. Et il sait que nos cœurs ne sont pas capables tout seuls de se départir, de se détacher, de se soustraire à la force du péché. C'est pour ça qu'il a accepté de souffrir pour nous. Non, la croix nous révèle que le péché est une offense mortelle contre un Dieu saint, parce que ce Dieu saint a tant aimé l'humanité. Il nous a créés à son image. Nous sommes le chef-d'œuvre le plus parfait de Dieu. Donc nous sommes chers à ses yeux. Il ne peut pas regarder son chef-d'œuvre s'abîmer, s'auto-abîmer, sans agir, sans intervenir, sans chercher à apporter la solution. Le péché, justement, détruit notre relation avec celui qui nous aime tant. Elle nous éloigne de lui, elle nous distrait de lui, elle nous isole de lui en disant « j'ai pas besoin de toi ». Le péché détruit nos relations les uns avec les autres. Combien de familles brisées, combien de couples en difficulté, combien de parents et enfants en tension. Alors que ces cocons-là devaient être de cocons d'amour, n'est-ce pas? C'est dans ces lieux que nous devions vivre, dans ces laboratoires que nous devions pratiquer l'amour, finalement. C'est le contraire qu'il y a trop souvent. C'est ça le péché. Le péché est une force qui nous dépasse et nous sous-estimons la force du péché. Nous croyons être capables de nous en départir tous seuls. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'est précisément pour ça que Dieu qui nous a aimés ne veut pas ignorer le péché, et parce qu'il ne veut pas ignorer les conséquences et l'emprise du péché dessus. Non, il a donné son Fils unique afin que celui-ci paye le prix du péché à notre place. La croix, c'est l'opération divine par laquelle Dieu vient nous sauver du cancer, du péché. Et c'est Jésus-Christ qui l'opère pour nous. Ce texte, il a été lu tout au long de cette célébration par différentes personnes. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 20, le matin de ce sabbat, et tout le déroulé de la résurrection de Jésus. C'est que lui-même, il a dit à ces femmes qui sont venues, une fois de plus, si Jésus était misogyne, franchement, cette scène serait à réécrire. Parce que les premières qui ont été témoins de la résurrection, ce sont des femmes, des braves femmes. La scène est cocasse parce que, à cette même période, ces hommes, ces vaillants, ces 12, étaient enfermés à 10 000 tours dans une maison, de peur qu'on les chope aussi. C'est le texte qui l'a dit, c'est pas moi qui ai dit. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont fait à leur maître. Ils se sont terrés, en fait. Et tout le long de la passion, c'est les femmes. On nous parle des femmes qui sont loin, mais qui sont proches et qui suivent Jésus. Et qui interagissent avec lui. Et tous les 12 ont disparu de la scène. Est-ce qu'on aurait été plus courageux qu'eux? J'en sais rien. Et ces femmes braves rencontrent, viennent à cet homme. L'ange se révèle à elles. Effroi, mais en même temps joie. Parce que l'événement est extraordinaire. Et puis sur le chemin d'aller annoncer aux disciples, Jésus lui-même se révèle à elle. Elle n'a eu pas peur, dit-il. Elle le reconnaît tout de suite. Parce qu'elle l'adore. Elle reconnaît Jésus. Et Jésus dit, n'ayez crainte. Allez annoncer à mes frères qu'on va se retrouver bientôt en Galilée. Qui m'attendent là-bas. Je vais tout leur expliquer. Et ces femmes braves sont allées. Et c'est par leur témoignage que par la suite, Pierre et Jean vont courir aussi au tombeau pour venir voir. Comme si le témoignage des femmes, il faut aller vérifier tout ça, disent-ils. Matthieu ne le relate pas, mais un autre évangéliste relate qu'entre Pierre et Jean, alors qu'ils étaient dans cette course de vitesse pour aller au tombeau, près du tombeau, bon, Pierre il freine un peu, on ne sait pas trop pourquoi, et c'est Jean qui y va. Bref, Jésus se révèle à ces femmes, et plus tard, il va se révéler aux disciples. cette résurrection-là a lieu 3 jours après la Pâque. Et ce n'est pas fortuit, parce qu'il y avait une prophétie d'Osée. Osée chapitre 6, versets 2 à 3, qui dit, après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons sous son regard. C'est l'accomplissement d'une prophétie très ancienne. Et on sait aussi que c'est le signe, puisque Jésus lui-même l'a dit pendant son ministère terrestre, c'est le signe de Jonas, qui a été avalé par le poisson et le 3e jour qui a été rendu à la vie. Mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus a vaincu le mal. Jésus a vaincu le péché. Oh, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que désormais, nous pouvons avoir la capacité de ne pas faire toujours le mal. Ce que nous n'avions pas avant sa résurrection. Maintenant, il nous l'a donné cette capacité. Mais il y a une condition. C'est de l'accepter. C'est de reconnaître que de nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Malgré nos bonnes volontés. Car Romains 3, 23 dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul humain qui peut dire, moi, dans mes pensées, je n'ai jamais eu de mauvaises pensées. Ça n'existe pas. Donc nous sommes tous disqualifiés. Et lui, il nous rend capables, il nous qualifie à nouveau si nous l'acceptons dans nos cœurs. C'est Jésus qui le fait. Cette bonne nouvelle, mes frères et sœurs, elle est pour nous aujourd'hui. Pâques, Jésus l'a dit, alors qu'il célébrait ce repas avec ses disciples, c'est la nouvelle alliance où Dieu nous invite à la gratitude, à la repentance et à une vie de sainteté. Vous savez, le mot sainteté, c'est un mot qui peut faire peur, mais dans les évangiles, c'est un mot très simple. C'est d'essayer de marcher selon les consignes et les ordonnances que donne la parole de Dieu. Et à chaque fois que l'apôtre Paul s'adresse à une église, que ce soit à Éphèse ou à Corinthe ou à Thessalonique, il dit bien-aimé, il dit les saints qui sont à Corinthe. C'est vrai qu'une certaine église a canonifié qu'un saint, il faut qu'il remplisse un certain nombre de critères. Mais bibliquement, un saint, c'est celui qui marche à la suite de Jésus-Christ et qui chaque jour essaie de laisser Dieu le conduire dans le bien que plutôt dans le mal, selon Dieu. La gratitude, cette gratitude nous donne de contempler le prix que Jésus a payé et cela doit nous impliquer dans la reconnaissance en Dieu. Soyons reconnaissants, profondément et sincèrement reconnaissants. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Et chaque fois que nous nous réveillons le matin, disons merci. Chaque fois que nous rentrons le soir, disons merci. Cette reconnaissance, nous la devons à Christ qui, par sa grâce, en acceptant le crachat, toute cette souffrance à la mort, mais bien plus parce qu'il est ressuscité, il nous donne cette joie de vivre. C'est lui que nous devons remercier. Et cette joie de vivre n'est pas liée aux circonstances, bien-aimés. Chacun de nous connaîtra des hauts et des bas. C'est le sort de tous les humains. Nous aurons nos difficultés, mais nous aurons aussi des joies. Mais il est là, il ne nous abandonne pas. C'est ce qu'il a dit dans ce passage que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 28. Il dit, et moi, je serai avec vous tous les jours. C'est une grâce. La repentance, vous savez, c'est cet acte qui me permet de dire, je demande pardon. Là, je n'ai pas été bon. Mes pensées m'ont trahi. Ma parole n'a pas été juste. Mon comportement, oulala. Et Dieu seul sait comment nos journées sont construites, comment nos journées sont en tension, comment nos journées se finissent des fois, et nous avons besoin chaque soir de dire, Seigneur, je te demande pardon. Pas pour nous culpabiliser, pour que nous disions, je suis rien, je ne vaux rien, non. Pour dire, donne-moi encore une nouvelle journée où je peux mieux faire. Par ta grâce. Chaque jour, venons au pied de cette croix, car c'est là que nous prenons aussi humblement l'idée que nous n'y arriverons pas tous seuls, mais nous avons besoin de lui pour nous y accompagner. Seigneur, pardonne-moi, transforme-moi. Il est capable. C'est pour ça qu'il est ressuscité, parce qu'il a la capacité de transformer la vie. Enfin, la sainteté. Non, parce qu'en faisant des actes justes, je mériterais le salut. Non, mon salut est accordé par Jésus, parce que c'est lui qui a l'acte le plus juste. Mais parce que je l'ai accepté, je veux essayer de marcher jour après jour selon les principes qui sont édictés dans ce livre qui s'appelle la Bible. La Bible est mon guide, c'est ma boussole, c'est mon baromètre. C'est lui que je consulte quand je dois prendre des décisions. Mes valeurs, c'est par lui que je les aiguise. Mes choix, c'est la Bible qui me donne de les évaluer et de les retenir ou pas. Bien-aimé, puisqu'il nous a racheté un grand prix, ça lui a coûté sa vie, mais il est ressuscité, il nous la donne gratuitement, alors nous sommes invités à le glorifier dans ce que nous sommes. Bien-aimé, finalement, pour cette Pâque que nous allons célébrer, que nous célébrons ici, entre nous, que peut-être toute la journée, nous allons avoir ce repas, cet agneau, ce gigot, pour dire merci, quelle belle journée. On a encore le lundi, le Pâques est férié, n'est-ce pas? Il semble que ce n'est pas pour longtemps. Mais on peut remercier le Seigneur, parce que nous l'avons encore. Regardons cette croix, le prix que ça a payé, que Christ a payé, et de quelle manière, si tu es un chrétien, si c'est une chrétienne, comment tu veux honorer ce Jésus qui t'a tellement aimé, qu'il a donné sa vie et qui en plus est ressuscité pour te donner la force de marcher loin du péché, bien-aimé. Cette réalité, c'est pour transformer nos vies. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui apportent un peu de paix dans un monde troublé, qui apportent un peu de... Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui peuvent dire à mon humble niveau, je veux te laisser faire de moi quelqu'un qui peut changer en bien une relation, une famille. Bien-aimés, est-ce que vous n'aspirez pas à faire le bien? Est-ce que vous n'aspirez pas à aimer votre prochain? Est-ce que vous n'aspirez pas à être des acteurs de paix dans une société toujours en tension, violente? Si nous aspirons à ça, invitons Jésus. Que le ressuscité nous aide pour que nous soyons des acteurs de résurrection, de transformation, de changement. Peu importe le niveau, tu peux le faire. Fais-le là où tu es déjà, sans prétention aucune. Dans tes relations, dans tes collaborations. Le péché n'est pas, c'est pas un jeu. Il y a tellement de conséquences au péché. On en a tellement. La liberté, ce n'est pas une excuse pour faire ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut a des conséquences sur les autres. N'est-ce pas? L'adage populaire dit que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc déjà, l'adage populaire dit ça. Ça veut dire que tu ne peux pas tout te permettre. Parce que si tu te permets tout, bah, tu as enfin la liberté de l'autre. Donc ce n'est pas une excuse pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. Puisque finalement, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Si je fais ce que Dieu aime, je fais aussi des choses par amour pour mon prochain. Il y a une corrélation très étroite. Et enfin, la croix, ce n'est pas un symbole vide. Celle-là, elle est vide parce que Christ est ressuscité. Mais elle est là pour nous rappeler que le péché a un coût, que ça a coûté la vie du Fils de Dieu, mais qu'il n'est plus là, qu'il est ressuscité. Et que parce qu'il est ressuscité, il peut nous transformer. Il veut nous transformer. Il veut nous changer et il est disponible pour le faire. C'est le lieu de l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, bien-aimé. Voilà. C'est Pâques, je prie et je souhaite que chacun de nous se laisse transformer pour être un agent de Dieu en Christ, un agent de paix, un agent d'amour. Dieu en a besoin, mais surtout notre humanité en a besoin. Le monde a besoin d'hommes et de femmes changés par Dieu, qui eux-mêmes sont capables d'apporter la restauration, l'amour, la paix, la bienveillance, la joie, la tolérance. Dieu a besoin de nous, mais dans la sainteté. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont maintenir le bien selon Dieu et non pas le bien selon la société. Et des fois, c'est un combat à contre-courant. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent aussi pour mener ce combat, pour garder la foi, pour garder le bien selon Dieu, car c'est de cela qu'il s'agit. Je vous invite peut-être à chanter. Tu avais prévu un chant? Mais j'aimerais bien qu'on chante le chant du soldat, là, celui qui doit rendre un témoignage, pour nous inviter à regarder nos témoignages à nous. Hein? Le rythme il était bon, mais les paroles aussi étaient fortes. Et je reviendrai tout à l'heure pour la prière. Que Dieu nous bénisse ensemble.